France Musique.
Bonjour Philippe Cassard et je vous souhaite un excellent week-end, à samedi prochain.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, hommage à Bernard Sinclair qui nous a quittés le 27 novembre. Il était l'un de nos derniers barytons légers mêlant charme et tradition dans l'opérette française ou viennoise. On le retrouvera tout à l'heure dans un entretien que nous avions eu en 2013 pour évoquer sa carrière et ses multiples curiosités. En fin d'émission, la chronique de Serge Laïc sur les grands orchestres de divertissement. Mais pour commencer, musique de Casimir Oberfeld, orchestre de Pierre Chagnon, voix de Fernandel. Je ne vois pas ce que je pourrais vous offrir de mieux.
Il y a des gens qui sont toujours très pessimistes. Ils trouvent que tout va mal.
Ça n'est pas normal. Heureusement pour nous qu'il y a le clan des optimistes
qui disent à chacun ce petit lien commun. Es-tu sûr de n'être pas tombé sur la tête? Es-tu sûr ton cerveau soit mûr? Es-tu sûr de ne pas rêver de conquête? Es-tu sûr de ne pas avoir reçu un coup dur? Oh, 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 tu travailles du galop. Ouh, 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 t'as reçu le coup de bambou. Es-tu sûr de n'être pas tombé sur la tête? Es-tu sûr de ne pas avoir reçu un coup dur? Ce matin chez moi, je reçois un ami d'enfance qui me dit, mon petit, prête-moi 50 louis. Comme je savais bien qu'il me les devrait toute l'existence, je lui réponds, mon vieux, t'exagères un peu. Es-tu sûr de n'être pas tombé sur la tête? Es-tu sûr ton cerveau soit mûr? Si je te prête ces 1000 francs, adieu ma galette. Si je dis non, tu me diras que j'ai le cœur dur. Ah, 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 je me dis dans les deux cas, je vais perdre un ami. Es-tu sûr de n'être pas tombé sur la tête? Es-tu sûr de ne pas avoir reçu un coup dur? J'étais décidé d'épouser la Vierge Denise lorsque sa maman me dit simplement, c'est un accident mais il faut que je vous le dise, elle a 3 petits gars, pas du même papa. Es-tu sûr de n'être pas tombé sur la tête? Es-tu sûr ton cerveau soit mûr? Je me dis effrayé, je passe en retraite. Un enfant passe encore, mais 3 c'est trop dur. Oh, 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 j'aime bien les marmots. Ah, 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 mais je veux être leur papa. Es-tu sûr de n'être pas tombé sur la tête? Es-tu sûr de ne pas avoir reçu un coup dur? Sur la tête, es-tu sûr de pas avoir reçu un coup dur?
Voilà, je vous l'avais bien dit, l'orchestre de Pierre Chagnon, encouragé à ses débuts par Debussy, Casimir Oberfeld, merveilleux compositeur, mort tragiquement, et il faut le rappeler, à Auschwitz, grand ami de Fernandel, je lui consacrerai un de ses jours toute une émission. Et puis Jean Mance, le beau-frère de Fernandel pour les paroles, une chanson écrite pour le Spoonz, mais je crois qu'elle n'est pas restée dans le film. C'était donc en mars 1938, on continue avec un petit air de tango. Sidney Torch et son orchestre en juillet 1952 dans Extase de José Belmonte, un tango voilà très coloré, réuni avec d'autres dans une anthologie de notre ami Pierre Marcel Onder. Et je vous propose, vous le savez, en ce deuxième trimestre, chaque samedi, quelques pages d'une opérette viennoise. Alors, en ce mois de janvier, j'ai choisi la première grande génération de l'opérette viennoise, les fondateurs. On a déjà entendu Strauss et Milhoker. On continue aujourd'hui avec Franz von Suppé, qui a été vraiment, avec Johann Strauss, fils, le père de l'opérette viennoise. Franz von Suppé, grand compositeur, souvent inspiré d'ailleurs par les succès de Paris, puisque un de ses premiers grands succès, c'est la Belle Galatée, tirée indirectement de la Belle Hélène et qui a triomphé au Carl Theatre de Vienne en 1865, ce théâtre où Suppé était installé quasiment à demeure et où il a donné une autre œuvre moins connue, Les Joyeux Bandits, tout à fait dans la tradition de Fra Diavolo et de toutes ces histoires de bandits très chères au 19e siècle. Et comme dans toute bonne histoire de bandits, dans Banditenstreiche, il y a évidemment ce duo entre le méchant Malandrino et la jolie soprano Lydia.
Bald schon werde ich dein Gatte und dann sind wir Mann und Weib. Drum den Kuss mir doch gestatte, sanft und süß.
Oh, mein eigenes Gewissen, küsse keinen fremden Herr. Will mein Ehemann mich küssen, dann gewiss.
Dieser Stich,
ja,
saß recht gut.
Ja,
ja, das Kind,
ja,
hat viel Mut.
Um mich zu fangen, müsst ihr mehr Temperament zeigen.
Temperamento? Un momento.
Les Joyeux Bandits de Franz von Suppé, enregistrement de 1954 avec l'orchestre de la radio bavaroise et deux grands chanteurs wagnériens d'ailleurs, par ailleurs, Hans Hopf et Erika Köth, très très à l'aise comme toujours dans ce pays allemand, dans le répertoire de l'opérette comme dans le répertoire de l'opéra. Il y a d'ailleurs cette page sombre que vous avez entendue au milieu de l'air, comme ça tout d'un coup très romantique, et puis le retour à la légèreté. On va écouter deux autres extraits de cet opéra comique de Franz von Suppé de 1867, toujours dans le troisième acte. D'abord, Here by Minor Polizei, un air plutôt de fantaisiste qui est chanté par Paul Quen. Et puis on va retrouver tout de suite après, à nouveau alors dans des merveilleuses vocalises, Erika Köth dans son air italien qui se situe peu avant le dénouement de l'ouvrage.
Here by Minor Polizei, geht das nicht, so eins, zwei, drei. Und ich will nicht gerade stehen für ein amtliches Versehen. Seh ich einen Verbrecher, lauf ich schnelle weg und melde ihn erst an höherer Stelle. Lass ihn ziehen, mag er fliehen. Ohne Befehl schreit ich nicht ein, Es muss dienstlich erst befohlen sein.
Dienstlich?
Dienstlich.
Dienstlich?
Dienstlich? Dienstlich muss es erst von oben mir befohlen sein.
Dienstlich?
Dienstlich.
Dienstlich?
Dienstlich? Selbstverständlich muss es dienstlich erst befohlen.
Ach, jetzt wird mir vieles klar, was mir bisher dunkel war.
Als Beamter mit Pension treff ich stets den rechten Ton. Will mich wer beim Frühstück stören, der soll meine Antwort hören. Bin ich denn für euch da, werde ich fragen. Oder ihr für mich, ihr dreisten Plagen.
Was wollt ihr? Ein Papier, ausgestellt, unterschrieben, gestempelt, gesiegelt und das sofort. Was?
Ohne Erlass. Fällt mir nicht ein. Es muss schriftlich erst verordnet sein.
Schriftlich?
Schriftlich.
Schriftlich?
Schriftlich. Schriftlich muss von oben es genau verordnet sein.
Schriftlich?
Schriftlich.
Schriftlich?
Schriftlich. Selbstverständlich muss es schriftlich erst verordnet, amtlich erst genehmigt, dienstlich erst von oben her genau verordnet.
Wenn nach vorn euch kocht das Blut, hinterm Schalter sitzt sich gut.
Das war ein Ton, was?
Mit heiser, feuriger Lust die Feierstochter singt, aus voller wogener Brust ein Liebeslied erglingt. Geliebter, kommt an den Ort, wo uns kein Speer wacht. Es winkt die Liebe, dort uns in lauer Mondennacht. Ein Love, ein Love, ein Amore.
Erika Köth, le chœur et l'orchestre de la radio bavaroise de Munich. C'est en 1954 que cet enregistrement a été réalisé, qui nous permet de découvrir aujourd'hui cette belle œuvre de Franz von Suppé, Banditenstreiche. Je vous propose de continuer donc la semaine prochaine cette exploration de quelques petits trésors de l'opérette viennoise. Mais pour l'instant, allons un peu nous relaxer dans les jardins d'un monastère anglais. Un parfait exemple du pittoresque anglais de la belle époque, monsieur Albert Kettelbe, auquel on doit bien sûr Sur un marché persan, mais aussi In a Monastery Garden, qu'on vient d'entendre par l'Orchestre Royal Philharmonique et les chœurs, sous la direction d'Eric Rogers. Alors, je vous l'ai dit aujourd'hui, eh bien, pas d'invité, ou du moins, on va retrouver un invité qui, malheureusement, nous a quittés le 27 novembre dernier. Il avait été l'un des derniers grands jeunes premiers de l'opérette française, du temps où celle-ci avait encore beaucoup de scènes, de théâtre, un peu partout en France. Il a chanté beaucoup l'opérette viennoise et l'opérette française. Je l'avais reçu d'ailleurs deux fois dans cette émission, au tout début, en 2001, et puis plus récemment, en 2013, le 14 septembre. Et je vous propose de retrouver maintenant cet entretien avec Bernard Sinclair.
Pour toutes les femmes, pour toutes les femmes, je sais que mon être s'enflamme. Mais il est un drame, l'amour me réclame, je vibre pour toutes les femmes. Pourquoi me plier, me livrer, point lié au désir d'une sœur sans trêve, quand il m'apparaît combien d'autres que l'amour fait chanter dans mes rêves. Savoir de ces âmes qui trouvent leurs âmes me pousse vers toutes les femmes, car j'aime hélas toutes les femmes. Que puis-je quand chacune allume mon désir et je me sens trop jeune encore pour choisir celle qui fixera pour tout jamais mon choix, apaisant en moi l'éternel émoi. Pour toutes les femmes, pour toutes les femmes, je sais que mon être s'enflamme. L'hymen est un drame, l'amour me réclame, je vibre pour toutes les femmes. Pourquoi me plier, me livrer, point lié au désir d'une sœur sans trêve, quand il m'apparaît combien d'autres attraits que l'amour fait chanter dans mes rêves. Savoir de ces âmes qui mouvent leurs âmes me pousse vers toutes les femmes, car j'aime hélas et je proclame qu'en dépit de tous les blâmes, je chéris toutes les femmes.
Quel séducteur est pris de toutes les femmes. Vous avez souvent chanté ce genre de personnage, Bernard Sinclair. Est-ce que ça vous ressemble dans la vie?
Ah oui, c'est mon programme.
Voilà, en tout cas, une très jolie musique. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
J'ai voulu commencer directement par cet air, d'abord parce que je trouve très joli.
Bonne idée.
Ça date de 1966. C'est une opérette qui s'appelle Roger Bontemps, d'un compositeur complètement oublié, mais que vous avez bien connu, qui est un peu un héritier de messager, qui s'appelait Marc Berthomieux.
Qui est un grand ami, très très grand ami. De même que ses deux enfants, son fils, sa fille, sont restés de grands amis, je les vois souvent. Oui.
C'était quel genre, comment vous l'avez rencontré? C'était quel genre de personne?
Ah bah écoutez, moi c'est très simple, j'ai débuté à Paris, vraiment quoi, des grands débuts, en 66 avec La danseuse aux étoiles.
Oui, on va y revenir tout à l'heure.
Oui, et il venait voir le spectacle. Tous les soirs, je voyais Marc qui était là. S'il a une idée derrière la tête, peut-être, je sais pas, il veut peut-être me proposer quelque chose. Et puis, ça a été très vite fait. Il voulait me proposer d'enregistrer à la radio. À l'époque, il y avait le service radio.
D'où est issu l'enregistrement qu'on vient d'entendre, d'ailleurs. Voilà, c'est Bernard Sinclair avec la troupe et l'orchestre radio lyrique. Dans cette œuvre qui s'appelle Roger Bontemps, qui est l'histoire d'un personnage insouciant. C'est une vieille histoire, d'ailleurs, qui remonte à la Renaissance, je crois.
Oui, ça fait partie du répertoire lyrique, mais qu'on a peu connu finalement, mais cet ouvrage, chaque fois qu'il a été joué, a eu beaucoup de succès. Parce que c'est très chantant.
Berthomieux, il avait commencé en finissant une opérette inachevée de Messager, Sacha. C'était un peu un héritier de Messager, Reynald Lohan.
Ah oui, tout à fait.
Dans sa matière.
Ah oui, tout à fait. Cet esprit-là, cette famille-là, c'est sûr.
C'était un personnage plutôt effacé, parce qu'il n'avait pas eu tellement de succès, il en souffrait, il était...
Non,
non ?
Non, c'était un optimiste, oui. C'était un joyeux. Il faisait des contrepétries sans arrêt.
Ah bon,
on ne pas s'en empêcher. Alors, Guy Descartes aussi. Alors, Guy Descartes et lui, c'était ça, contrepéter sans arrêt.
Ah bon, on va revenir à Guy Descartes à propos de la danseuse aux étoiles dans ouais. un petit moment. En tout cas, je suis heureux de vous revoir. Vous étiez venu il y a déjà oui. des années dans ouais. cette émission. Ouais. On va évidemment...
Je me languissais, comme on dit.
Voilà, moi aussi. Voilà. Et puis, il faut dire que vous avez une activité étonnante, parce qu'on va y revenir, c'est le sujet principal, évidemment. Vous avez beaucoup, beaucoup chanté partout en France, des quantités de rôles, des quantités d'opérettes et d'opéras. Mais en plus, ça continue. Là. Vous êtes encore en pleine activité en ce moment.
Ah,
vous êtes au théâtre quasiment tous les soirs à Paris.
Ah oui, en ce moment, oui. Mais alors, en tant que comédien.
En tant que comédien. Et puis vous êtes aussi en tant qu'auteur.
Auteur, oui, aussi. Oui.
Comment vous... C'est l'amour, la passion de la scène.
Oui, oui, de tout ce qui est artistique. Pas seulement. Tout ce qui est artistique.
Ah oui.
Pas seulement la musique, tout le reste aussi.
La littérature, le théâtre, oh, la peinture.
Je suis un fou de littérature. Comme je voyage beaucoup, j'ai toujours un livre en main.
Ah oui.
Ah oui, toujours.
Écoutez, Bernard Sinclair, on va revenir un petit peu sur cet étonnant parcours, parce que vous êtes en plus otorhino-laryngologiste.
Mais c'est normal pour un chanteur.
Oh oui, c'est normal.
Ils sont tous
En tout cas, on va remonter peut-être aux années de votre tendre enfance. Est-ce que je me trompe, vous étiez déjà né, mais vous étiez tout petit en 1938, hein?
Ah oui,
voilà.
Non, trop petit. Ah oui, me vieillissais pas, j'étais vraiment tout petit.
Tout petit, mais Charpini et Brancato, eux, chantaient déjà.
De André Barre et Charles Cuvillier, Petit tout petit, tiré de l'opérette Son petit frère, In English Little Brother. Alors voilà les personnages, Agathos Brancato et Laïs Charpini.
C'est charmant comme musique.
Oh, bien, ces deux amoureux qui auraient voulu se connaître tout petit. Toi, voyons.
Ah, si l'on s'était connu tout petit, ce pouvait être si gentil.
Bon, viens.
J'aurais gardé dans mes mains tes menottes, et bon, pour que tu me montres tes quenottes, j'aurais frotté mon nez à ton menton, j'aurais chatouillé ton petit peton.
Nous aurions trouvé que cette fête merveille de fibres dans l'air, le vol d'une abeille, de donner du grain au petit poussin, de regarder les poissons du bassin.
Hein? Ah, si l'on s'était connu, petit tout petit, ce pouvait être si gentil. Ah, si l'on s'était connu, petit tout petit, ce pouvait être si gentil.
Oh, je me suis à cette époque-là, moi. Oui. Ça n'est pas la brioche que j'ai maintenant, évidemment.
Ah,
je l'ai mince.
Et moi,
comme un fils, hein?
Qu'est-ce que j'avais, moi?
Moi, t'avais une nappe splendide, non, enfin. On dirait monsieur et madame Denis qui parlent. Enfin.
Nous aurions goûté la joie enfantine de mordre tous deux la même tartine. Et puis si cela s'était répandu, de s'embrasser pour que rien soit perdu.
Je t'aurais prêté ma poupée en cire, tu m'aurais prêté ton pantin en cire, pour faire un cheval ton dos incliné, et moi mes doigts pour mettre dans ton nez. Madame.
Ah, sinon c'était connu, petit tout petit, ce pouvait être si gentil. Ah, sinon c'était connu, little tout little.
L'anglais qui nous revient, mes enfants.
Ce pouvait être si gentil.
L'un contre l'autre bien blotti.
L'un contre l'autre bien blotti.
Si on s'était connu, petit tout petit,
petit, petit, petit tout petit, 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 petit tout petit.
Un extrait de Son petit frère, opérette de Charles Cuvillier. Compositeur qu'on avait d'ailleurs évoqué déjà la semaine dernière avec Mathé Alteri, mais là c'était donc Charpini et Brancato juste avant la guerre. Et alors vous, Bernard Sinclair, des années après, vous avez vu Charpini et Brancato qui se produisaient encore parfois ensemble.
Oui, et souvent dans un cabaret qui s'appelait, ça va rappeler des souvenirs à certains auditeurs qui ont l'âge d'avoir pu les connaître, qui s'appelait Chez Tonton, le Libertis. C'était un cabaret, les gens dînaient.
Place Blanche à Paris.
Oui, Place Blanche, c'est devenu une pharmacie.
C'est devenu une pharmacie.
Oui. Et
Alors c'était quoi ce Liberty, ça?
Ah, c'est Liberty, c'est chez Tonton. Il y avait Tonton qui était là, qui était le patron. Et j'ai tous connu. J'ai connu Beko, Aznavour, Claude Véga. Vous voyez, je ne cherche pas. Hein. Ah. Bon, Mathilde Gazatsu, les imitateurs aussi.
Beaucoup de fantaisistes.
Pierre Rep, il y avait Jean Raymond. Bon, c'était des équipes extraordinaires.
Et alors, Charpigny et Brancato, vous en avez un souvenir précis?
Ben voilà, le souvenir précis que j'ai d'eux, c'est le duo de Véronique, le duo de l'âne de Véronique. Et d'ailleurs, un soir, j'ai fait Florestan avec Charpigny.
Avec Charpigny, carrément. Ah oui, oui, quand même, c'est pas mal.
Ah oui, mais ça me faisait pas peur.
Vous aviez quel âge, Bernard
Sartre? Oh, attendez, ça c'était les années 54-55.
Oh, c'était un tout jeune homme. C'était avant vos débuts professionnels.
Un gamin. Oh, ça n'a pas été long. Hein.
Ça n'a pas été long. Années. Alors justement, revenons-y, Bernard Sinclair, parce que comment êtes-vous devenu chanteur et musicien? D'abord, dans votre enfance, dans votre famille, on écoutait de la musique?
Oui, alors du côté de la famille de ma mère, les Brandes de Dunkerque, Brandes.
Voilà, vous êtes dunkerquois et fier de l'être.
Hein. Fier de l'être, oui, on est très chauvin dans ce coin-là, et on a raison. Mon grand-père Brand, c'était un concertiste d'orgue.
Ah oui.
Et alors, il allait se produire à droite, à gauche, etc. Et chaque fois qu'il rentrait, il faisait un enfant à sa femme. Donc, ils se sont retrouvés avec vraiment comme ces grandes familles du Nord. Hein. Et il a fait apprendre un instrument à chacun de ses enfants, mais un instrument différent. Donc, il y avait l'orchestre Brand, de la famille Brand.
Ah oui, avec tous les enfants.
Et il se produisait, il y avait les petits gamins.
On croit une histoire de Jean Noël. Hein,
voilà. Et ma mère qui avait eu un accident, ma petite mère, elle avait eu un accident sur la plage, un cycliste était rentré dedans. Et elle avait déjà. Moi, elle n'a pas connu d'autres cyclistes. C'est sa seule aventure de cycliste.
Non, je pense aussi.
Et là, c'est une mauvaise aventure. Parce que ça lui a sectionné des tendons. À l'époque, on n'opérait pas la main comme maintenant. Et donc, elle n'a pas pu apprendre le violon parce que ça se passait sur la main gauche. À la main droite, elle aurait pu tenir l'archer. Et elle tenait, le triangle. C'est elle qui
tenait. Oui, c'était modeste, mais c'est important.
C'est important, il faut être en mesure. Il faut absolument être en mesure. Donc, il y a quand même
une grande présence de la musique dans votre famille.
Oui, ça a continué après.
Vous avez été petit chanteur aussi.
Oui, alors j'étais dans une école de frères, des écoles chrétiennes. Et dans ce genre d'école, on ne néglige pas du tout les arts. C'est presque une tradition. Et il y avait un grand orchestre et une chorale dont j'étais le soliste.
Ah oui, donc, déjà.
Oui. Et alors en plus, ma voix, eh bien, la mue, elle s'est passée sans qu'on s'en aperçoive. Et puis j'ai attrapé une voix d'homme. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça.
Mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire alors des études de médecine plutôt que des études de musique?
Alors, après ma TLM, j'ai fait maths sup. Bon. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas suivre Mathieu parce qu'il y avait des cols le soir. Et j'allais au cours du soir du conservatoire.
Ah ben voilà.
Donc, bah tant pis, je laisse tomber. Je vais aller en fac parce qu'en fac, on n'est pas obligé d'aller au cours. On est obligé de faire les travaux pratiques.
Les étudiants en pleine rentrée qui nous écoutent vont être édifiés par votre exemple.
À l'époque, c'était comme ça en tout cas. Donc j'allais, moi, je m'organisais comme ça et j'allais au conservatoire. Bon, je suis resté un an au conservatoire et je suis parti très vite parce que je n'étais pas hyper satisfait de l'enseignement. Et je suis souvent un insatisfait chronique, bon, faut dire. Hein, bon. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que j'ai donné la réplique à un concours alors que j'étais en première année. À un concours de mise en scène, d'art lyrique, comme on dit. Dans le lyrique, on appelle ça de l'art lyrique. Et je faisais la réplique d'une Mélisande, qui, elle, passait son concours. Ouais. Et curieusement, il y a une discussion avec le directeur. Les jurys voulaient me donner un accessit, je sais pas quoi, et je pouvais pas parce que je n'avais pas de récompense de chant encore.
Il fallait dire que vous avez chanté Péléas des années plus tard.
Voilà. j'ai appris Péléas à cet âge-là. Ouais. J'ai tout appris parce que j'ai dit je chanterai Péléas un jour.
Et on voit bien quand on lit un petit peu votre biographie, Bernard Sinclair, que vous avez eu cette jeunesse un peu entre, au fond, la vie d'artiste, la vie de bohème, et puis les études quand même que vous avez poursuivi, mais aussi tout en animant même des émissions de radio à Lille. Hein,
et ça s'appelait modestement Paroles et arpèges.
Paroles et arpèges, mélange de musique et de littérature, c'est pas mal. Hein. et puis voilà, vous avez donc fait vos débuts de chanteur dans le Nord.
Hein. Ah oui. Alors, je venais écouter Beko au Libertis, Et je revenais avec ces chansons et je chantais ces chansons et je m'accompagnais quelquefois au piano. Et dans les cabarets là-bas, il y avait les cabarets, il y avait notamment la Tour d'Orchy qui était très connue, où passaient Charles Trenet, Edith Piaf et tous ces gens-là, et des gens modestes qui débutaient comme moi. Moi, je pensais à la chanson à l'époque.
Ouais.
Et d'ailleurs, j'écrivais des chansons et je les chantais lors de ces soirées. Il y en a une qui s'appelait Château de Verre. Alors c'était la conséquence d'un grand drame d'amour que j'avais transcrit dans une chanson. Et curieusement, quand j'ai écrit Chevalier des Mers après, j'ai repris cette chanson.
Ah oui.
Et je l'ai donnée à ma vedette féminine, Michèle Clavery, que je salue si elle nous écoute et que j'embrasse, et qui a été la vedette du Chevalier des Mers après une voix magnifique, très très légère mais très belle, ravissante.
Voilà donc le jeune étudiant en médecine qui pour l'heure voulait devenir chanteur. Mais alors on va faire un tout petit saut dans le temps et maintenant vous retrouvez, et on va y revenir après, à vos débuts de chanteur et de vedette d'opérette. Ici, c'est donc dans cette danseuse aux étoiles.
Bonsoir, ma jolie ballerine, montrez dans vos jolis yeux ce soir. Si divine, c'était un rêve merveilleux. Permettez qu'on vous fasse la cour, permettez qu'on vous parle d'amour. Adeline, Adeline, aimons-nous car le bonheur. Adeline, ma jolie demoiselle d'opéra, voici mon cœur plein de tendresse, mes bras pour vous enlacer, voici mes baisers, mes caresses et vos lèvres pour me griser. Votre cœur peut-être pour m'aimer, votre cœur peut-être pour m'aimer. Adeline, Adeline, aimons-nous car le bonheur.
Voilà, je pense aux quelques Adeline que je connais qui nous écoutent peut-être, mais celle-ci c'était la mère de...
C'était Tessa Beaumont qui jouait le rôle d'Adeline.
Ah oui, voilà, ouais.
C'était une grande danseuse, une danseuse étoile.
Alors, c'est la danseuse aux étoiles, donc c'est 1966 que vous chantez ce rôle à Mogador, qui était alors encore, vous avez connu, on peut dire, la fin de l'âge d'or de l'opérette, parce que c'était encore le grand Mogador dirigé par Henri Varna, avec cette reprise d'une œuvre créée là-bas, de Vincent Scotto, Guy Descartes et Varna. Comment il vous a repéré, Varna, pour alors, ses débuts parisiens?
Varna avait il envoyait des gens en droite à gauche, en province, ouais, à l'étranger, et un type m'a vu chanter, je crois que c'était à Lyon, oui, à Lyon ou à Dijon, le Tsarevitch de Franz Léard, voilà, que j'ai beaucoup chanté après,
ouais.
Et bon, je m'excuse pour la suite, hein, ça ne va pas faire très modeste, mais il a dit j'ai vu un type formidable là-bas, c'est ouais, ce qu'il te faut maintenant, etc. Bon. Et il m'a appelé en pleine répétition. Et bien sûr, bon, c'est la Scala de Milan, enfin les bêtises qu'on peut dire dans ces cas-là quand on... Dépêche-toi, il y a quelqu'un au téléphone qui va t'intéresser. Et puis c'était Henri Varna.
Oh, c'est quand même pas mal, hein.
Oui, alors...
C'est le grand homme du musical de l'entre-deux-guerres.
Voilà. Alors il m'a dit j'ai besoin de vous. Alors précisé, je lui ai dit bien sûr, voir quel était son désir. Et il me dit voilà, on va faire la danseuse aux étoiles. J'ai besoin de vous comme je voudrais vous présenter à la vedette féminine et puis vous entendre parce qu'il faut. D'autres vous ont entendu en qui j'ai grande confiance. Je suis allé faire une audition. On était pas mal, on était une quinzaine. Et puis, j'ai retrouvé tous les copains, quoi. Bon, et puis ça s'est bien passé.
Voilà. C'était de l'opérette à grand spectacle.
Oh là là,
c'était
oui.
C'était un truc
oui.
énorme, comme on faisait
oui.
à l'époque.
Ah oui, et puis...
Genre, les décors, oui, les effets...
Oui, c'était ça, Beaumont. Son mari était le maître de ballet, c'était Max Bozzoni,
oui.
Qui est disparu il y a peu de temps, d'ailleurs, et qui était un grand danseur, un grand maître de ballet. Très difficile, très dur. Ça a été le maître de ballet de... le professeur... De, comment il s'est, ça, son nom m'échappe, du grand danseur qu'on a eu, un des derniers grands danseurs qu'on ait eu.
En tout cas, cette danseuse étoile donc à Mogador, c'est aussi une œuvre de Guy Descartes que vous avez beaucoup aimé.
Guy Descartes, oui, c'était ouais, un frère.
Ah oui,
ah oui. Ah là 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 là. D'abord, c'est très facile. Quelques années après, j'ai fait Rosemary
Toujours à Mogador.
Toujours à Mogador, 70-71. Il venait me chercher. Pratiquement tous les soirs, ouais. parce que c'était il avait toujours son cigare, c'était un flambeur, et puis
il gagnait bien sa vie. D'ailleurs.
Il avait, oui, il gagnait très bien sa vie, et il avait sa table chez Maxime. Alors on allait chez Maxime après le spectacle.
Et voilà, puis, c'était la vie parisienne comme.
Oui, il y avait toujours beaucoup, de très jolies créatures autour de lui. C'était très agréable à regarder.
Alors il faut dire que avant donc ces débuts parisiens, vous avez eu vos débuts provinciaux, parce que après avoir voulu être chanteur de variété, vous avez finalement fait vos débuts de chanteur d'opérette.
Voilà, j'ai rencontré à la radio un monsieur dont je veux absolument parler parce que il a compté pour moi terriblement, comme beaucoup d'artistes ont toujours eu un type. C'était Élie Delfosse. Élie Delfosse était ténor et ensuite il a joué des rôles de composition dans les opérettes, les opéras comiques, etc. Et il a été directeur à Mulhouse, co-directeur avec Louis Ducreux à Nancy, et ensuite directeur tout seul à Nancy. Et surtout, il a créé l'Opéra du Nord avec Tourcoing, Lille et Roubaix. Et ça a été les grandes années de l'Opéra du Nord là-bas.
Voilà. Et vous avez d'ailleurs commencé par des petits rôles d'opéra, et puis des grands rôles d'opérette. Notamment, il faut rappeler l'importance à cette époque-là au Théâtre Sébastopol de Lille.
Le grand
théâtre d'opérette du Nord.
Oui, ça m'a marqué terriblement. Et notamment Edgar Duvivier, qui a été metteur en scène là-bas pendant des décennies et qui jouait également, acteur, metteur en scène, qui est aussi auteur, etc. Et que je salue, parce que je sais qu'il écoute vos émissions. Au passage, voilà.
Alors, dans ces débuts donc de chanteur lyrique, d'abord, il faut noter, restons modestes, mais vous avez quand même eu presque toujours des grands rôles, des premiers rôles. Hein.
Toujours.
Mais il y avait aussi, il faut le dire, peut-être le physique. Vous étiez un jeune homme très, très séduisant et ça compte aussi dans une carrière de chanteur.
Je juge, mais maintenant, c'est difficile de le penser.
Et puis, tout ça vous a conduit donc vers les grands rôles de l'opérette française, mais aussi beaucoup très vite de l'opérette viennoise, avec votre voix de baryton Martin, qui est obligé d'aller un peu vers le ténor dans ce répertoire-là.
Oui. Hein. Le baryton Martin, c'est un baryton ténor.
Oui, c'est ça. Oui. Donc la couleur change selon l'œuvre et le répertoire, c'est plus ténor ou plus baryton.
À tel point qu'il y a des barytons Martin qui se sont mis à chanter les ténors.
Oui,
et il y a pas mal de types qui ont chanté Siegmund, par exemple, de la Valkyrie. Siegmund, qui est un ténor grave. Moi-même, j'ai chanté en concert à l'Opéra du Nord et c'est un très beau souvenir.
Alors, vous avez chanté donc beaucoup de Franz Lehár,
voilà.
En particulier Le Pays du Sourire,
oui, c'est la même
Frasquita, Paganini, etc. Vous avez chanté les grands rôles français. Et puis, je voudrais qu'on écoute tout de suite, parce que vous en avez beaucoup enregistré aussi, on va y revenir, un extrait de Valse de Vienne sur la musique de Johann Strauss. C'est vraiment un très bel enregistrement. Vous êtes en duo avec Maddy Mesclé.
Oui, Maddy. Désir, devenir, plaisir, bébé,
c'est comme votre reflet. Valsez, valsez, valsez lentement. Dansez, dansez, toujours plus gaiement. Valsez, valsez, puis valsez sans rêve. La valse, je la
vous chantiez le rôle de Strauss Junior dans cette valse de Vienne avec Maddy Mesplet sous la direction de Jean Doussard. Très belle version. Oh, hein,
c'est un grand chef, un très grand chef. Et
donc ça sont alors vos années.
Et Pierre Bertin dans le rôle du père Strauss.
Oui, c'est pas mal non plus. C'était en 1971 que vous avez fait cet enregistrement, précédé, suivi par beaucoup d'autres chez, on disait Pathé à l'époque, on disait Emmy aujourd'hui. Vous avez beaucoup enregistré d'opérettes. Là, j'ai sous la main La fille de Madame Angot, toujours avec Maddy Mesplet. J'ai Le pays du sourire avec Michel Danse et quelques autres. J'ai Les cloches de Corneville, là, etc., etc. Alors, comment est-ce que vous êtes entré chez Pathé, qui était quand même la grande maison de l'époque, et la concurrence devait être serrée.
Merci Michel Danse. Voilà.
C'est la confrérie du Nord.
Ah oui, sans doute, sans doute. Michel, je l'écoutais à l'âge de 10 ans, parce que à l'époque, les chanteurs, eh bien, c'était des voix avant d'être des visages. Il n'y avait pas de télévision, etc. Quoi. Et mon père pistait, parce qu'il adorait le chant, et il pistait, il écoutait si Michel Danse, qu'il appelait Michel, sans le connaître, bien sûr. Alors, il m'appelait, il m'a dit, Bernard, c'est Michel, une maison, donc à l'escalier, j'étais dans ma chambre. Et je descendais 4 à 4 pour écouter Michel. Et un jour, je vais présenter Michel. Un jour, mais plus tard, quand j'ai eu 20 ans, j'ai amené Michel à la maison. Mais c'était Dieu qui rentrait dans la maison, quoi, pour
c'était
mon père.
Un merveilleux artiste, grand homme de théâtre. En même temps, j'imagine un homme assez simple dans sa façon d'être.
Charmant. Et parce qu'il venait, pas de la bourgeoisie, quoi.
C'était, non, c'est ça, voilà. C'est...
Comme moi, hein. Bon, moi.
Il vous a fait entrer donc chez Pathé.
Voilà. Bah, il m'a dit, écoute, on va faire mon disque jubilé, Le pays du sourire, que j'ai tellement chanté.
Ouais.
Toi, tu le chantes maintenant. Je le chantais depuis quelques années. Déjà le même rôle que lui, le rôle du Chinois. Mm-hmm. Alors, c'était assez difficile, avec ma tête de flamand, de faire une tête de Chinois. Mais j'y arrivais avec du sparadrap. Vous savez que je revenais de l'hôpital.
Alors, justement, parenthèse hôpital, Bernard Sinclair, parce que c'est quand même, je pense que vous êtes un cas à peu près unique de grand artiste lyrique qui a exercé parallèlement la profession de médecin dans une spécialité très exigeante, otorino-laryngologiste.
Spécialité merveilleuse.
Merveilleuse. Mais alors, comment vous avez combiné les deux choses? Il y a une période où vous avez complètement laissé de côté la médecine?
Non, il n'y a pas de période où j'ai laissé de côté. Parce que même quand je chantais énormément, je ne savais pas trop si j'allais m'installer, mais c'était le cadeau à mes parents, ça, le titre de docteur en médecine.
Ah oui.
Et ça, pour rien au monde, je les aurais privés de ça. Et donc, je n'ai jamais laissé tomber, jamais. Et j'ai eu des amis qui m'ont beaucoup aidé, qui ont, dès le début, qui venaient voir les spectacles, etc., et puis qui m'aidaient. comme ça, sans chercher. Christian de Guine, que je salue, qui a été un merveilleux chirurgien de la surdité, qui m'a appris cette chirurgie.
Alors, parce que vous êtes intéressé précisément à des choses qui font le pont entre votre métier de chanteur et la médecine.
Oui, l'audition, le chant, le larynx. Et puis ensuite, comme je citais ces gens qui m'ont aidé et qui ont été très importants pour moi, il y a eu François Van Eeckloof, qui est professeur et qui a été patron à Lille, très grand chirurgien, et qui lui m'a fait rentrer dans son service, m'a gardé après dans son service comme attaché, alors même que j'étais déjà installé. N'étais pas installé, j'ai toujours été attaché dans certains hôpitaux pour garder la main, si vous voulez.
Mais alors, vous aviez quand même un statut un peu particulier qui vous permettait d'aller chanter le soir aux quatre coins de France. Comment ça s'organisait?
Oui, bien sûr. Mais bon, quand vous êtes attaché, vous faites des consultations, vous faites des interventions, quelquefois. Et puis, tous les autres sont là pour prendre la suite.
Et vous continuez aujourd'hui à pratiquer votre beau métier de médecin.
Je l'arrêterai, je sais pas, quand les anesthésistes diront, écoute, maintenant, il est temps de te reposer.
Ça vous a rien...
Mais je suis pas fatigué. Pourquoi voulez-vous que je me repose?
L'ORL vous a rien appris pour ce qui est de la technique du chant, j'imagine.
Bien sûr, ça m'a conforté dans mes idées là-dessus.
Une ou deux, juste.
Le rôle du souffle, la distribution du souffle, savoir qu'un chanteur n'est pas un athlète.
Ouais.
C'est plutôt, on peut plutôt l'assimiler à un danseur de cordes.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire? Dans la pression sous-glottique, etc., il faut un équilibre. C'est pas du tout. Malheureusement, les journalistes, pas les journalistes comme vous, mais les journalistes qui font des critiques, parlent toujours de l'athlétique ténor, etc., mais ça n'a rien à voir.
C'est pas de l'athlétisme.
Je vais pas dire que c'est plus subtil parce que les athlètes vont en vouloir, mais c'est vraiment autre chose.
Alors, parmi les morceaux dont on a parlé en préparant ensemble cette émission, Bernard Sinclair, j'étais très content de retrouver le nom d'un ancien invité d'ailleurs de ce micro, merveilleux imitateur des années 50-60, que vous avez vu applaudir au même endroit, je pense, que Charpentier Brancato.
Ah oui, chez Tonton, oui, voilà. Absolument. Ouais.
Il s'agit de Claude Véga qu'on retrouve dans une imitation de Charles Aznavour.
Après avoir chanté L'amour sensuel, Charles Aznavour a composé une chanson pour les moins de 5 ans.
Du soleil sur sa tête d'ange, de l'amour en son cœur qui bat. Comme accroché dessous ses langes, une fontaine qui jaillit aux éclats. Il y a ses pipis qui vagabondent, en mouillant tout sur ses pas. Et de partout il est minondé, et je crie par-dessus les toits. Arrête le déluge et prends ton gâteau. Ça, c'est ta tétine, ça du fausse chaos. Ça, c'est ton biberon, ça, c'est ta bouillie. Ça, c'est mieux que bon. Une vraie gâterie, mais c'est autre chose aussi. De moins doux, de moins tendre aussi. Plus cruel et plus âpre aussi. De l'huile de foie de morue, aussi. Ça, c'est une aubaine. Ça, c'est merveilleux. Tu l'avales sans peine. Tu es mon petit, tu es mon doux. Tu es du tonnerre de Dieu.
Voilà, ça n'était pas Charles Aznavour, mais Claude Véga en 1956 dans toute une série d'imitations. Grand artiste, n'est-ce pas, Bernard Sinclair ?
Il fallait l'entendre et le voir.
Oui.
Mais je trouve qu'il avait beaucoup de classe, ce type.
Il en a toujours beaucoup, d'ailleurs. Peut-être qu'il nous entend ce matin, j'espère. Claude Véga, merci de nous le faire redécouvrir aujourd'hui. Bernard Sinclair, alors je reviens après l'otorhino-laryngologie à votre carrière de chanteur qui s'est élargie. Parce que en fait, vous êtes un peu un boulimique, on peut dire.
Très boulimique. Hein,
tout vous intéresse, tout vous attire.
À la frontière des choses.
Voilà. Alors, comme vous étiez content d'être chanteur d'opérette, mais finalement, vous êtes dit un jour, au fond, pourquoi je ne serais pas aussi auteur et compositeur d'opérette? Et c'est comme ça qu'est né le Chevalier des Mers, votre opérette à grand spectacle, dont le héros, ce que j'avais complètement oublié, Jean Barre, et dunkerquois, bien sûr, comme bien vous. C'est pour ça que vous l'avez choisi.
Bien sûr, oui, bien sûr, c'est pour ça que je l'ai choisi.
Alors comment est né ce Chevalier des Mers qui était, enfin, moi, l'impression que j'ai eue, c'était quand même aussi un petit coup de chapeau à l'opérette classique française à une époque où on était plutôt dans le grand spectacle.
Voilà.
Type Lopez, si vous voulez, voilà. Bon, qui était oui. un genre alors, très intéressant, bien, mais qui avait pris un peu oui, toute la place.
Vous faites bien de parler de Lopez, parce que, justement, je jouais des opérettes à grand spectacle. On a parlé de Rosemary tout à l'heure, et puis toutes les autres, je chante du désert aussi, par exemple. Mais ces rôles-là, c'était des baladeurs.
Ouais.
Ils chantaient un air, deux airs, un duo, bah, et puis que, on les voyait plus.
L'opérette d'après-guerre, il faut dire, c'était une opérette de ténor.
Oui, d'abord, oui.
Tout,
pas seulement. Hein,
les vedettes étaient des ténors. C'était Mariano, c'était Guettari, c'était Dassari.
Il y a quand même eu Baugé à un bon moment, et puis Marcel.
Et Marcel Merkès.
Regretté Marcel, qui était un grand ami. Et bien sûr, mais c'était un peu des baladeurs. Ouais. Parce que regardez, on parle de Rosemary. Marcel a joué beaucoup Rosemary avant moi, et avec d'autres. Et je voulais écrire un rôle. Justement, Mariano était toujours là. Il avait compris qu'il fallait toujours être là pour être une vedette sur le plateau. Et regardez tout ce qu'il a créé. Il était toujours
là. Ah, il est tout le temps présent.
Tout le temps, c'était lui. Scène. Vous n'avez qu'à minuter, tout le temps, du début à la fin, etc. Et Guettari et tous ces gens-là. Bon. Et je me suis dit, je vais m'écrire un truc comme ça, moi. Je vais me servir moi-même. Et comme ça, j'ai 5 airs là-dedans. J'ai plusieurs duos, j'ai des ensembles. J'ai un rôle qu'aurait joué. Avec une autre tessiture, bien sûr, un type comme Mariano, il aurait trouvé ça intéressant, omniprésent. Et voilà.
Vous avez tout écrit ?
J'ai tout écrit, oui, oui, j'ai tout
écrit. Vous avez commencé par le livret ?
En même temps, c'est-à-dire toutes les mélodies, si vous venez, venez avec les paroles.
Ouais.
Voilà.
Et alors, justement, pour l'orchestration, vous avez fait appel à votre cher Marc Berthomieux.
Oui, absolument. Parce que j'étais un drôle d'orchestrateur, moi. J'étais un orchestrateur qui sifflait. Alors, je sifflais tous les instruments. Et Marc a accepté cette chose-là, qui est extraordinaire. Il a accepté que je siffle. Et il prenait un peu la mélodie, voyez-vous ce que je veux dire, et puis il arrangeait ça après, c'était un arrangeur aussi, un grand compositeur, mais un arrangeur, et qui était aussi très généreux, il l'a prouvé là.
Alors ça a été créé où alors, le Chevalier des Mers
à l'Opéra de Nice,
à l'Opéra de Nice,
avec l'Orchestre Philharmonique de Nice, et vraiment une équipe formidable, parce qu'à l'époque c'était, et c'est toujours d'ailleurs, un grand théâtre, le théâtre de Nice, et moi j'y jouais beaucoup là-bas, et le directeur à l'époque il avait 5 théâtres.
Ah oui.
5 théâtres. Il trustait tout, s'appelait Ferdinand Aimé.
Comme Marcel.
Il avait déjà un certain âge. Et il avait Montpellier, Béziers, Toulon, Nice, etc.
Bon, vous avez déjà tourné dans tout cela?
Ah oui, tout de suite. Alors,
il y avait encore une scène pour l'opérette.
Souvent,
en France,
me prêtait son chauffeur et sa voiture. Et je faisais un ouvrage dans un de ces théâtres, en matinée, et en soirée, ou le lendemain, dans un autre théâtre, et puis il me promenait comme ça, voilà. Et là, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et j'ai eu la chance d'y retrouver Élie Delfosse, qui, lui, était devenu grand premier comique, ça s'appelait comme ça à l'époque.
Ah oui.
Grand premier comique d'opérette, et qui avait vraiment beaucoup de talent aussi là-dedans.
Vous avez regretté de ne pas pouvoir le donner dans un grand théâtre parisien
Oui, alors j'ai compris qu'il fallait le donner d'abord à Paris.
Ouais.
C'était ça la règle.
Mais il n'y avait plus d'endroit déjà en 73 quasiment pour ce genre de
la règle du jeu. Oh, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de choses. Puis en 73, je m'étais lancé dans l'opéra comique. Parce qu'on oublie, par exemple, que Les Cloches de Corneville, ce n'est pas une opérette, c'est un opéra comique.
Ouais, bien sûr.
Et puis bien d'autres. On parlait de la Hussarde tout à l'heure, c'est un opéra comique.
Non, on va en parler de la Hussarde. Nous deux, on en a parlé, mais on n'en a pas encore parlé aux auditeurs, justement, dans un instant, parce qu'on a retrouvé des petits trésors grâce à vous, Bernard Sinclair. Ouais. Mais on va quand même d'abord écouter un extrait, eh bien, forcément, du Chevalier des Mers.
Ah, merci.
Je lutterai plein d'ardeur pour mon roi. L'aventure encore comme unique maîtresse. La victoire enfin sera ma seule ivresse. Chevalier des mers, ne laissant jamais à l'ennemi. Que regrets amers, je resterai de la chance l'ami. De mon fier combat, la gloire étant le seul butin qui conduira au plus noble destin, celui qui restera. Si j'ai souffert par les plus sombres nuits de voir mon espérance vaine, le roi soleil vient de faire aujourd'hui s'envoler toutes mes peines. Chevalier des mers, de la France défendant les droits, chevalier des mers, je lutterai plein d'ardeur pour mon roi. L'aventure encore communique mes la victoire enfin sera ma seule ivresse. Chevalier des mers, ne laissant jamais un ennemi, que regrets amers, je resterai de la chance l'ami. De mon fier combat, la gloire étant le seul butin qui conduira au plus noble destin, celui qui restera.
Alors là, c'est donc auteur, compositeur, interprète, on peut dire, Bernard Sinclair, dans son opérette à grand spectacle, Le Chevalier des Mers. C'était en 1973. Vous nous disiez, Bernard Sinclair, qu'à cette époque-là aussi, donc, vous chantiez à l'Opéra Comique. Vous y avez fait entrer notamment la Chauve-Souris, je crois, dans la version française.
Oui, absolument. Oui.
De Johann Strauss. Et puis, vous avez aussi donc eu un certain nombre de retours vers le grand répertoire lyrique avec des rôles effectivement comme Péléas ou comme Marouf.
Dans l'opéra, il y a eu Péléas, il y a eu Marouf, il y a eu Charles.
Il paraît que vous étiez un merveilleux Marouf.
Ah,
dans la version baryton.
Oui. Non, je chantais. Je chantais la version originale de ténor.
Ténor,
ah oui, ben voyez, cette voix est très particulière, elle est à cheval. Là aussi, elle n'a pas choisi non plus. Je n'arrive pas à choisir.
Et puis donc, je le disais également, Bernard Sinclair, on a fait des petites recherches pour préparer l'émission dans les archives de la radio. Et vous avez donc été aussi un collaborateur assez régulier du service Radio Lyrique.
À Lille, oui, Radio Lille.
C'était à Lille, oui, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, j'utilise très souvent toutes ces archives qu'on a conservées grâce à l'INA. Mais il y avait plusieurs radios, il y avait Paris et puis il y avait aussi Lille qui avait sa propre programmation lyrique.
Absolument.
Alors comment ça se passait là-bas? Vous enregistriez, on vous appelait pour faire des rôles que vous connaissiez pas?
Oui, puis j'avais souvent déjà oublié. J'étais producteur d'une petite émission, vous le rappeliez tout à l'heure. Qui s'appelait Paroles et Arpèges, et où j'invitais notamment des Lillois, toujours mon chauvinisme, et notamment Thérèse Coquerel. Ça vous dit rien, Thérèse Coquerel?
Non, pas du tout. Non.
Ben, je vais vous apprendre que Thérèse Coquerel, c'est Isabelle Aubray.
Ah voilà. Oui. La,
Thérèse Coquerel.
Qui est devenue plus tard Isabelle Aubray.
Et à l'époque, elle était un peu boulotte, hein, ça aussi, ça vous étonne. Et excuse-moi si tu m'entends. mais ça n'a pas duré. Et elle chantait Léon d'Annie Cordy. Voyez-vous pour vous dire que comme les artistes peuvent changer. Après, c'est devenu chanteuse romantique de Jean Ferrat.
Oui, bien sûr. Hein,
tout à fait autre chose.
Mais je reviens aux séances lyriques de la radio. Fallait être un très bon lecteur parce que c'était des ouvrages complètement oubliés en général. Oui. Comme Roger Bontemps qu'on a entendu tout à l'heure, peu connu. Il fallait pouvoir déchiffrer avec tout le monde, ensembles, les airs, etc.
Il faut déchiffrer. Hein, il faut déchiffrer, surtout si on veut chanter beaucoup de choses.
Vous avez chanté alors notamment Les Dragons de l'Impératrice de Messager, dont on a un enregistrement avec Lina Dachary et quelques autres. Et puis alors compositeur alors complètement oublié de la génération de l'époque de Messager, mais mort jeune, Félix Fourdrin, merveilleux musicien. Alors on va écouter peut-être un ensemble extrait de La Hussarde, une de ses opérettes que vous avez enregistrée avec toute la troupe de Radio Lyrique en 1972 à l'ORTF.
Lorsque nous serons fiancés, à combien nous serons pressés de voir arriver le dimanche.
Heureuse d'être à votre bras, nous mettrons de vos folles mains notre plus belle robe blanche.
Entourés de graves parents, de notre sagesse garant, nous partirons en promenade.
Et comme il faut rester discret, nos yeux se diront leurs secrets en une langoureuse yard.
Ça, c'est vraiment de la belle opérette française. Hein.
C'est de la dentelle, cette musique.
De la dentelle, Bernard Sinclair. Merci de m'avoir donné l'occasion de le redécouvrir. C'est La Hussarde de Félix Fourdrin, né en 1880, mort en 1923, qui a joué un rôle d'ailleurs, parce que c'est dans une de ses œuvres, Les Contes de Perrault, que la jeune Yvonne Printemps a débuté en 1913. Mais Fourdrin est mort jeune et il a laissé des œuvres merveilleuses comme cette Hussarde qui date de 1925, que vous avez enregistrée à la radio. Là, on a reconnu les voix de Bernard Planté, de Lina Dachary et de quelques autres. Ce sont des bons souvenirs, ces séances.
Oh oui, mon Dieu, c'est un plaisir à chaque fois.
Voilà, alors ça, c'était donc en 72, mais aujourd'hui, Bernard Sinclair, bon, soyons tout à fait francs, vous ne chantez plus beaucoup en scène, hein.
Ça dépend.
Et
d'ailleurs, c'est curieux parce que, par exemple, on va en parler. Donc,
parlons-en.
Allez-y, annoncez-le.
Aujourd'hui, vous êtes auteur et acteur dans des pièces de théâtre, hein, une qui s'intitule. Alors là, vous êtes auteur, Les Mouettes d'Étretat. Ouais. Encore qu'il y a plus de goélands que de mouettes à Étretat, mais bon, c'est le nom générique.
C'est le nom générique. Ouais.
Une pièce qui a beaucoup de succès, qui se donne depuis un certain temps maintenant à Paris.
On a commencé il y a quand même quelques mois.
Ouais, voilà. Ouais. Et puis aussi. Acteur, vous jouez le Cid et un certain nombre de classiques.
Ah oui. J'ai commencé avec la.
Comment c'est arrivé ce goût du théâtre sans musique ?
Je voulais faire créer ma pièce Les Mois d'Étretat. Et j'avais des amis comédiens qui m'ont dit : écoute, si tu veux entrer là-dedans, il faut que tu sois comédien. Alors sois comédien et puis essaye de mettre en scène, par exemple. Et il y a un type qui pourrait t'aider, c'est Génère. Alors, Jean-Luc Génère, qui est directeur du théâtre du Nord-Ouest
parisien. Voilà, c'est rue du Faubourg Montmartre.
Rue du Faubourg Montmartre. Hein, voilà. Alors,
c'est une pièce assez sombre, hein, c'est une histoire de prison.
C'est terrible, oui.
Très contemporaine. Qu'est-ce que viennent faire les Mouettes d'Étretat là-dedans ?
Alors, justement, j'ai voulu tromper le public. Alors, je les emmenais avec un titre qui ressemble à Camping numéro 5 ou des trucs comme ça. Les vacances,
le grand air,
le soleil, le grand air, la mer. Ouais. Et puis après, je vais les faire tomber dans la tragédie. Parce qu'au fond, c'est comme le Cid, je m'excuse, franchement, il est un peu prétentieux. Non mais attendez, c'est comme le Cid pour une chose, parce que Corneille, on ne sait peut-être pas, on s'en souvient pas, mais il a appelé ça. Et regardez la partition. Vous voyez, je mélange tout. Non, regardez son livret, enfin sa pièce. Il est marqué tragicomédie. Ouais. Et il y a aussi des passages comiques dans ce. Donc tous les soirs, quand on joue, il y a des passages comiques où on se moque de cette pauvre chimène, etc. Et c'est pour ça que c'est une tragicomédie.
Et puis alors, vous aimez jouer donc aussi les classiques. Hein.
Maintenant, oui. Alors j'ai fait des choses très différentes puisque j'ai joué un tout petit peu, pas longtemps, Knock, mais le rôle de Parpalais, celui qui vend sa clientèle, étant donné mon âge, je peux pas jouer Knock, je peux pas me lancer. Je peux continuer une carrière, mais je peux pas commencer une carrière. Et ensuite, j'ai fait la guerre de Troie n'aura pas lieu. On a fait toute un cycle Giraudoux.
L'intégrale Giraudoux.
Giraudoux. Oui, j'ai mis en scène Tessa. Ouais. Et je dis bien, j'ai mis en scène parce que je m'en souviens, étant donné qu'il y avait quand même 24 acteurs ou 25 acteurs, dont moi. Ouais. Et c'est un très bon souvenir aussi.
Tout ça, plus votre cabinet médical. Donc, l'idée de la retraite, vous, c'est quelque chose qui vous effleure
absolument
pas.
C'est la Bérésina, la retraite.
Bernard Sinclair.
Non, je veux bien la toucher. Mais je veux pas arrêter de travailler. Merci Sarkozy, je m'excuse, on va pas faire de politique. Mais c'est quand même lui qui a inventé le cumul emploi-retraite. Et pour des gens comme moi, c'est très important. Et comme vous, sans doute, quand ça arrivera, vous arrêterez pas.
La musique dans vos projets, là, encore une petite place, alors.
Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Des places différentes. Il y a une comédie musicale que je suis en train d'écrire. Il faut bien que j'écrive une comédie musicale maintenant. Un opéra, ça m'étonnerait quand même. Mais comédie musicale. Et qui se passe au début du siècle dernier. Pas celui-ci, bon, qui commence pratiquement, mais du siècle dernier.
Du 20e.
Voilà. Et qui sera aussi panaché de rire et de pleurs. Il y a toujours des pleurs.
Voilà, une tragicomédie,
une tragicomédie musicale.
Vous réécoutez vos disques nombreux qu'on trouve encore pour une bonne part d'entre eux, Bernard Sinclair.
Ma voiture se marie, mais je préfère écouter les copains.
Je préfère écouter les autres.
Ouais, ouais, ouais.
Parce qu'on va peut-être, pour se quitter, ressortir une rareté, et un petit Offenbach. Vous avez chanté relativement peu Offenbach par rapport à d'autres.
J'ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup.
Alors, moins enregistré, disons.
Un petit peu. Il y a eu La Belle Hélène, il y a eu...
Voilà. Puis alors, il y a un Brésilien qui vous tient à cœur.
Ah, ça, j'adore. J'adore parce que c'est un contre-emploi. Et puis, je dois prendre l'accent brésilien. Si les Brésiliens m'entendent, j'espère qu'ils ne seront pas déçus. En tout cas, moi, je me comprends.
Alors, on va se quitter, cher Bernard Sinclair.
En gaieté.
Avec l'air du Brésilien, effectivement, en gaieté. Merci d'être venu. Il y a tant de sujets passionnants qu'on peut aborder avec vous. Et puis, merci pour votre énergie communicative et cette carrière.
Je peux vous renvoyer le compliment, cher ami. Parce que vous êtes assez énergique dans votre genre aussi.
Je suis brésilien, y était l'or, et arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui qu'en la guerre, Paris y était, reviens encore deux fois. Et suivons-nous déjà, j'avais des l'or dans ma valise, des diamants à ma chemise. Combien adorer tout cela, le temps d'avoir 200 amis, et d'aimer 4 ou 5 maîtresses, 6 mois des galantes ivresses. Et plus rien au Paris, en 6 mois tout m'a tout raflé. Et plus vers ma jeune Amérique, tout ma pauvre et mélancolique, délicate et m'a remballé, payé, brûlé, de revenir. Et là-bas sous mon ciel sauvage, j'ai même répété avec la chou, notre faute nous mourir, je ne suis pas mort, j'ai gagné, tant bien que mal, les sommes folles. Et y viens pour que tout m'évole, tout ce que là-bas y est volé, tout ce que là-bas y est volé, tout ce que là-bas y est volé. Ah, je suis brésilien, j'étais l'or, et y arrive des Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui qu'en la guerre, Paris, y te reviens encore. Je suis brésilien, j'étais l'or, et y arrive des Rio de Janeiro. Paris, 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 y te reviens encore. Hourra, 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 je viens de débarquer, mettez vos faux cheveux coquins. Hourra, 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 n'importe à vos quenottes, tout ne fortune à croquer. Le bison vient plumer, plumer, prenez mes dollars, mes banknotes, m'a montré mon chapeau, mes bottes. Mais dites-moi que vous m'aimez. À moi les jeux et les riz, et les danses cavalières. À moi les nuits de Paris, qu'on m'émène au bal d'Anières. Sachez-les bien seulement, car c'est là la nature. Y'en prendrez pour mon argent, et vous les aurez. Y'en prendrez pour mon argent, y'en prendrez pour mon argent. Venez, venez, venez.
Le L'air du Brésilien de la vie parisienne, enregistré en 1999 par Bernard Sinclair pour sélection du Reader's Digest. Ainsi se terminait cet entretien que m'avait accordé Bernard Sinclair le 14 septembre 2013 et que je vous ai proposé de réentendre ce matin à l'occasion malheureusement de sa disparition puisqu'il nous a quittés le 27 novembre. Quitté, pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'un chanteur, on peut toujours heureusement le retrouver par ses enregistrements, et ils sont nombreux, ces enregistrements d'opérettes viennoises, d'Offenbach et d'autres, notamment tous ceux paru chez EMI, qui permettront donc à Bernard Sinclair d'être toujours présent avec nous. Il est temps maintenant de retrouver la chronique aujourd'hui en compagnie de Serge Laïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Heureux de vous retrouver. Alors pour poursuivre quelque chose qu'on a commencé il y a déjà un certain temps, pour la parution d'un très beau disque sur les grands orchestres de musique légère, les grands orchestres internationaux, oui. Volume 1. Aujourd'hui, oui. Voici le volume 2 qui arrive chez Marianne Mélodie et c'est l'occasion pour nous et bien de partir à la découverte de quelques-uns de ces orchestres.
Tout à fait. Alors comme pour le premier volume, donc paru il y a maintenant un an, effectivement, on retrouve dans ce coffret 50 titres instrumentaux. Beaucoup d'entre eux sont inédits en CD et on y retrouve des thèmes connus bien sûr, mais aussi des petites perles rares comme aurait aimé notre ami Pierre-Marcel Anderre. Alors ce nouveau coffret réunit 36 grands orchestres de France, de Grande-Bretagne, Allemagne, des États-Unis et de quelques autres pays. Et alors parmi les chefs d'orchestre américains, les plus prestigieux sont présents dans ce coffret comme Percy Faith, Ray Conniff ou d'autres. Et peut-être moins connu, celui de Henry Jerome qui interprète une brillante version de Holiday for Strings.
Henri Jérôme et son orchestre, vous avez raison. Alors vraiment, Serge Laïc, magnifique version de Holiday for Strings, 1962. D'ailleurs, je vois que presque tout est des années 60, ce qui nous donne des effets stéréophoniques délicieux.
Absolument, donc de David Rose.
Et c'est David Rose, donc ce grand compositeur américain, mari de Judy Garland.
Absolument, à une époque, dans les années 40, absolument.
Auquel on doit aussi la musique de la Petite maison dans la prairie, je
Absolument,
crois.
Absolument, hein. David voilà. Rose a composé aussi, Bonanza également, voilà. Alors, petite fantaisie dans le coffret, petite exception, Joey Fingers Carr, eh bien, ce n'est pas le chef d'un grand orchestre américain, mais un des plus brillants pianistes de divertissement. Eh bien, dans ce coffret, on retrouve son étonnante version du bal chez Madame de Mortemouille, la célèbre musique de Gérard Calvi.
Cette musique que son compositeur, le regretté Gérard Calvi, présentait comme la plus bête qu'on puisse imaginer, mais elle a valu beaucoup de succès.
Elle a fait le tour du monde.
Et là, c'était la version de Joe Fingers Carr dans ce coffret dont vous nous parlez aujourd'hui, Serge Laïc.
Alors, parmi les grands orchestres allemands présents dans ce volume 2 de la magie des grands orchestres internationaux, eh bien, on retrouve les noms d'Alfred Hauser, surnommé le roi du tango de concert. Il y a aussi Helmut Zacharias et ses violons dits enchantés, ou Hans Georg Arlt, l'un des plus fins violonistes d'Outre-Rhin, qui enregistra quelques albums mythiques de musique légère, entre autres cette superbe version de Tournée, Tournée.
Thank you.
Il a encore des effets de studio très recherchés, Serge Laïc. Dans cette belle version de Tournée par Hans-Georg Alt et son orchestre en 1962.
Alors, ensuite, on va écouter une petite perle, celle écrite par le chef d'orchestre américain Richard Heyman, qui fut longtemps l'arrangeur d'un grand orchestre américain, le Boston Pops Orchestra, qui était dirigé par Arthur Fiedler. Et Richard Heyman interprète avec son orchestre un morceau qu'il a appelé Suzanne, l'une de ses compositions, tout à fait dans l'esprit de la musique dite récréative.
Suzanne par Richard Heyman et son orchestre en 1962. Et quand j'entends ce genre de choses, Serge Laïc, je fais un petit salut dans le ciel quelque part à notre ami Pierre-Marcel Onder.
J'attendais que vous le fassiez et vous l'avez fait, bravo.
À propos, dans votre volume 2 des grands orchestres internationaux, pas de français ?
Si, oui, il y a des français.
Il y avait déjà Joe Boyer, je me rappelle, dans le précédent.
Bien sûr, il y a Eddie Barclay avec un arrangement de Joe Boyer. Il y a Michel Magne avec l'accordéoniste Freddy Balta. Il y a Raymond Lefebvre. Oui, il y en a. Ils sont représentés, ne vous inquiétez pas. Alors, les chefs d'orchestre anglais, grands maîtres en matière de musique légère, ne sont pas oubliés non plus, et notamment avec Manuel et sa musique des montagnes, qui mêle grand orchestre à cordes, rythme latin, alors là on a harpe, mandoline, guitare, castagnette. Un exemple avec cette étincelante interprétation du célèbre tango Jalousie. Voilà, merci Benoît, merci à toute l'équipe d'Étonnez-moi Benoît, et à bientôt.
Merci Serge, à très bientôt. Jalousie par Manuel et sa musique des montagnes, un extrait du coffret La magie des grands orchestres internationaux qui vient de paraître chez Marianne Mélodie et que nous présentait l'ami Serge Elaïque. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Pauline Boisaubert. Aujourd'hui, à la technique Xavier Atto, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, j'aurai le grand plaisir de recevoir Liliane Montevecchi. Bon week-end à tous.